Alors, on va commencer cette rencontre exceptionnelle avec un personnage exceptionnel qui est là devant vous, que vous attendez tous sûrement, qui s'appelle Alejandro Jodorowsky. Donc, voilà. Que nous avons la joie d'accueillir, l'immense joie d'accueillir ici dans ce festival. Donc, comment le présenter? C'est un être multifacette qui a tout fait depuis toujours, qui a du mime aux marionnettes, au cinéma, à la bande dessinée, à la réalisation de films, poète.
Osilie volait des bananes. Des voleurs de bananes dans les ports de Valparaíso.
Voilà, en plus. Donc, on va essayer de cerner un peu le personnage, en commençant par le présenter. Donc, voilà, un peu savoir quelles ont été ses influences. Et puis, on vous laissera la parole aussi, bien sûr. Je pense que vous avez beaucoup de questions à lui poser.
Mes influences.
Oui, alors, on essaye de présenter.
Je dirais n'importe quoi pour qu'on s'habitue à mon accent. Est-ce que vous me comprenez, mon français?
Il parle très bien français.
Pas très bien, non? Le son est bon? J'étais, à propos d'influence, la personne qui plus m'a influencé dans ma vie, c'était Mouche. J'étais à l'université de Princeton, les États-Unis. Je me sentais très bien parce qu'il y avait un film qui marchait très bien. Et j'ai donné une conférence comme celle-là, pleine d'étudiants, et Mouche s'est posé dans mon nez. Et là, ça a changé ma vie. Enfin, j'ai dit, je suis une merde.
Ah.
Pour qui je me prends? Si même les mouches viennent se poser sur moi. Alors j'ai beaucoup remercié à cette mouche et à partir de ce moment-là, je ne tue plus les mouches. Ma maison est pleine de mouches. Il y a de toutes les couleurs, c'est rempli, il faut les écarter, elles m'accompagnent, c'est formidable. Vous me croyez? Bueno, la mouche dans le nez, c'est vrai. Et pourquoi elle s'est posée dans mon nez? Parce que c'était mon complexe. Je suis né d'émigrants russes, juifs russes, qui cachaient qu'ils étaient juifs dans le nord du Chili, dans un petit village de 2000 personnes, conquis à Bolivie. Alors tous les enfants étaient bruns avec des petits nez. Et moi j'étais très blanc avec un nez comme celui-là, de la même grandeur, et on m'appelait Pinocho. Et c'était mon nez qui ne me permettait pas d'être un être normal. Alors j'avais 4 années et j'avais pas d'amis. Alors j'ai commencé à lire. À 4 années, miraculeusement, j'ai lu. Et j'ai passé ma journée à la bibliothèque en détestant mon nez qui m'empêchait d'avoir des amis. Et j'ai traîné cette nez. J'ai un nez curve, voyez-vous? Et mon père avait un nez grec. Alors, on ne savait pas qu'il était juif. Mais moi, je l'ai dénoncé avec mon nez. Je l'ai dénoncé. Alors, il ne voulait pas me parler, il ne voulait pas se promener avec moi. Mon nez, c'était mon ennemi.
Et donc, c'est dans les livres que tu as trouvé les amis, que vous avez pu éventuellement vous faire... toutes ces influences et trouver les auteurs et avoir des inspirations. Comment ça s'est passé? Parce qu'à 4 ans, c'est très tôt pour commencer à lire.
Oui, je lis tout, conte de fées. Il y avait une bibliothèque pour enfants avec les classiques adaptés. Donc je lis Shakespeare, Cervantes, adaptés pour enfants. C'était une collection merveilleuse. Je connais tous les classiques à 4 ans et demi. Je connaissais déjà les classiques adaptés pour enfants. Et ça a développé mon cerveau vers le magique, vers l'imaginaire.
Oui.
Plus tard, quand je suis allé à l'université, j'avais deux chemins à suivre, parce que j'étudiais philosophie et psychologie. Un chemin, c'était l'intelligence. Et l'autre chemin, l'imagination. Alors j'ai opté pour quitter l'université, rentrer dans le chemin de l'imagination et commencer à faire des marionnettes. Quand je l'ai raconté à mon père que j'allais quitter l'université pour les marionnettes, il a pleuré. La première fois dans sa vie, il a pleuré. C'était un drame. Pas pour moi.
Mais vous n'avez pas quitté l'intelligence pour autant, non plus.
Est-ce que quel mauvais public vous êtes, hein? Je n'ai vu jamais un public comme ça. Personne parle, on dirait des momies.
Non, mais non, ils sont à l'écoute.
Alors, si vous êtes là, levez une main. Voyons si vous...
Ils sont tous là, Alejandro.
Là, maintenant, je me sens mieux. Ah, si, je te vois bien, c'est formidable. Parce que j'ai l'habitude de lire les tarots. Pas les futurs, sinon de lire les tarots, je les lis gratuitement. Pendant 30 années, j'y vais à un café qui est en bas de chez moi, je lis celui qui vient. Et ça m'a appris à voir l'autre. Parce que quand on lit un tarot, on doit voir l'autre, pas soi-même. Donc on doit s'oublier un peu, sortir de soi, et le moi disparaît un peu, et il y a le toi qui apparaît l'autre. La communication. Chose qui m'a manqué quand j'étais enfant. C'est pour ça que j'ai fait tout ça, je crois que c'est pour ça que j'ai fait la bande dessinée, la danse expressionniste, les dessins, le cinéma, la musique, j'ai tout fait.
Et vous continuez à le faire.
Vous savez pourquoi? Parce que la réalité me donne la raison. Quand on me dit pourquoi vous faites tellement, j'ai fait ça. Je dis qu'est-ce que c'est ça? C'est un téléphone? Peut-être oui. Peut-être aussi c'est une machine photographique. C'est un appareil qui contient de la musique, des films. Il vibre.
Il peut tout faire.
Il faut faire attention avec les choses qui vibrent, parce qu'il y a beaucoup de dépravés. Je ne dis pas qu'est-ce qu'on fait avec, mais il vibre. Alors, si un appareil a beaucoup de applications, pourquoi pas un artiste?
Bien sûr.
Hein? Pourquoi pas? Et pourquoi vous faites tellement de choses? Parce que je peux.
Et tout le monde peut. Là, il y a une question. Hein? Est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous savez vibrer aussi?
Je vais te répondre. Il y a 5 formes de vibration. Premièrement, je vibre mentalement. Je suis complètement éveillé. La nuit pour m'endormir, c'est une bataille de 2 heures. De tous les personnages, parce que j'ai fait 7 livres à la fois. Après, je vibre émotionnellement. Très fort, madame. Ma femme est par là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Pascal, tu es par
là. Elle est juste là, à côté.
Là.
Juste là, en face.
Alors, Pascal. Alors, après, je ne dirais pas que je vibre sexuellement, c'est un peu choquant, mais créativement, oui. Je n'arrête pas, je travaille en ce moment avec beaucoup, même des dessinateurs. Je viens de finir avec Manara. Maintenant, je travaille avec François Buckel, Bunzer, qui est une bande dessinée formidable. Je travaille avec Fructus, Showman Killer, qui c'est pas mal. Je travaille Le Pape Terrible avec Théo en italien. Ogre Goda avec Jean Jettos, etc. Je travaille avec beaucoup de personnes. Aussi, je vibre physiquement. Parce qu'avec mon âge, mon corps commence à s'écrouler. Alors je vois comment mes dents tombent, je vois comment mes muscles me font mal, je vois comment mon anus peut faire grandir des hémorroïdes, des petites mauvaises digestions. Et c'est formidable voir que le corps s'en va comme une rivière, tu vois. Alors on est assis avec cette vibration, et il y a la vibration corporelle qui est très calme et qui navigue. Et la cinquième vibration, c'est mon âme, Jainam. Jainam, ça m'a coûté beaucoup, beaucoup l'affaire. Parce que l'âme se construit. On ne te donne pas la conscience. Je suis conscient que je pense. Je suis conscient que je sens. Je suis conscient que je désire. Je suis conscient de mes besoins. Et ma conscience, c'est la plus grande vibration. Yes.
Est-ce que vous êtes conscient là, tous?
Vous êtes conscient de ma réponse? Merci.
On peut parler quand même un tout petit peu aussi de cette aventure avec la bande dessinée.
Oui.
Parce que c'est important dans ta vie. Après ce projet, cette envie de faire ce film Dune qui n'a pas abouti, mais ça a engendré cette envie de faire de la bande dessinée.
Si.
Parce aussi,
que
non
dis, oui, je dis que l'échec n'existe pas.
Non.
Ça existe le changement de chemin. Quand on ne peut pas faire une chose, on doit la faire par un autre chemin. J'avais travaillé avec Moebius des années, 3000 dessins, hein, pour faire les guions, les scripts. Et tout d'un coup, on n'a pas fait le film. Comme j'ai adapté Dune, à cette époque-là, on n'avait pas de continuation, c'était un mystère. Les premières centaines de pages, c'était hyper littéraire, hyper. C'est comme les Proust de la science-fiction, c'était un mystère. Et moi, j'ai pris la décision d'inventer des images pour tout ça. Alors, j'ai inventé beaucoup d'images avec Chris Foss, Guiguer, qui après a fait les monstres de Alien, O'Bannon, Moebius. Et quand on ne le faisait pas, je dis à Moebius, tu regardes, O'Bannon est déprimé, il est tombé dans une maison de psychiatrique. Il a été deux années, O'Bannon, interné de la déception. Il a fait 13 scripts, et le numéro 14 était Alien, et il est sorti. Alors je dis, on ne va pas se prendre pour un raté, on va faire une bande dessinée avec ça. Avec tout le matériel, on fera une bande dessinée. Et voilà qui est Lancal, avant Lancal,
les yeux du chat,
les yeux du chat, les métabarons.
Les métabarons, ça c'est très important aussi.
Les technopères. Tout ça. Et même dans Arzak de Moebius, je lui ai donné une paille, la double, c'était une idée de moi. Je lui ai dit, puisque tu fais Arzak sans mots, pourquoi tu ne fais pas une guerre complète? Donc à l'extérieur, il y a les barbares, et à fur et à mesure qu'on rentre au centre de la paille, il y a les défenseurs, et on voit la guerre, dans une double page. Donc j'ai commencé à faire de la bande dessinée comme ça.
Et les métabarons, ça a été... aussi tout au long de cette carrière.
10 années. On
voilà,
a fait...
c'est très long aussi, les métabarons, c'est important.
10 volumes, un par année. Tout un arbre généalogique complet. Et ça, c'est né parce qu'il y a un fils, Brontis,
si.
Qui est acteur.
Il a eu un beau succès aussi dernièrement à Paris.
Les Gorilles.
Oui.
Et à cette époque-là, il travaillait dans le théâtre là, de Mouchkine. La Mouchkine. Et il faisait une trilogie grecque, les Atreides. Alors, comme je vois tout ce que. Moi, aller voir une tragédie grecque, ça m'embêtait, mais merde, les cœurs et tout ça. Et alors, je suis allé quand même, je me suis tapé 8 heures en pièce de théâtre. J'avais les fesses en compote et j'ai piqué une grippe. Mais en voyant. Le théâtre grec avec les complexes d'Édipe, l'inceste, les crimes. J'ai dit, bon, pourquoi je ne ferais pas quelque chose qui dépasse les Grecs? Je ferais la tragédie grecque en science-fiction, à ma façon. Et je vais dépasser les complexes d'Édipe et tout le reste. Et comme ça, j'ai commencé à écrire les métabarons.
Alors,
ça, parfois, ça sert s'ennuyer. Si vous êtes marié avec un partenaire ou une partenaire qui vous ennuie, c'est bien, parce que ça vous enrichit.
Oui, on peut parler aussi actuellement de cette aventure avec Milo Manara, avec les Borgia, parce que là aussi, on a une grande transgression, non? Cette histoire de transgression, elle est assez forte dans les Borgia.
Ça a changé la télévision, parce que maintenant, il y a des séries qui s'appellent Borgia. Et vous trouvez des traces de mes Borgia. J'ai commencé bien avant.
Oui.
Parce que j'ai commencé à penser la mafia. Quelle était la première mafia? Les papes.
Voilà.
Les Borgia, c'était une famille criminelle qui n'avait pas une drogue, mais mais il vendait les permis d'aller au paradis. Il faisait des fortunes avec ça. C'était un trafic mêlé dans la politique, sans limite sexuelle. C'était. Alors je vais faire une série sur la naissance de l'Église par les papes. Et j'ai fait Borgia. Quel dessinateur pouvait le faire? Je dis que je me présente à un dessinateur italien. Pourquoi pas essayer avec Manara? Et il a vu tout de suite, il a voulu, et c'était parfait. Parce qu'il fallait un Italien qui connaisse bien l'Italie, la peinture, l'architecture, les costumes, tout ça, non?
Et qui sache dessiner les belles femmes, comme personne.
Oui, il était spécialiste avec les déclics, non?
Voilà.
Avec une aura porno. Mais voilà. Je lui ai dit, avec moi, tu vas dessiner des belles femmes, mais tu vas dessiner de la violence. Je vais faire des crimes magnifiques. Alors ça l'a plu, il a fait des crimes incroyables.
Là, il y a le troisième tome qui est paru, c'est ça?
Non, il y a quatre.
Il y a quatre, hein, déjà, oui.
Voilà. Et dans quelques jours, ça va sortir le volume complet des quatre volumes.
D'accord.
Un seul
ça,
tome.
On peut les trouver ici.
Peut-être qu'il est là, déjà?
Je pense qu'il est là, le 4, mais pas le volume complet avec les quatre en même temps. J'ai vu Oui, oui. 1, 2, 3, 4.
Alors, c'était très bien travailler avec Manara, parce que généralement, je parle, non? Quand je travaille avec Book, que c'est un dessinateur très, très intelligent et sensible, chaque deux jours, on parle par téléphone. Moi, je suis à Paris, il est à Lille. Alors, on discute, non? Et on parle. Peut-être il va proposer une idée qui va me faire changer l'action. Mais avec Manara, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de fax, on ne peut pas lui parler, tu donnes le script, et au pied de la lettre, il fait. Et après, il arrive avec la chose, pas de communication. Alors, pendant des fois, on a dîné ensemble, il avait une attachée, Madame Kuckerman, je crois que c'est là.
Attachée de presse.
Très bizarre parce qu'elle avait une maladie de Jansi, elle n'avait pas de dents, mais elle mordait très fort. et j'étais obligé à parler avec elle parce que Manara était silencieux. C'est très curieux, hein? Très curieux.
Il est timide, Manara. Je l'ai bien connu.
Il est timide.
Oui, très. Bon, alors, on a abordé la bande dessinée. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu des films que tu as fait, La Montagne Sacrée, El Topo, pour ceux qui ne les ont pas vus, qui ne savent pas éventuellement.
La première film que j'ai fait, c'est Fando Elis, au Mexique.
Ouais.
On voulait me tuer. C'était un grand scandale. Il y avait un directeur qui s'appelle Indio Fernandez qui m'a menacé de me tuer. Il avait déjà tué à deux. Alors, c'était vrai. Alors j'ai dit travailler. Après j'ai fait El Topo, que c'était un grand succès aux États-Unis. Après j'ai fait La Montagne Sacrée. Et après j'ai fait Santa Sangre,
oui,
un film
Santa
de crime. Parce que ce n'est pas un film de crime, c'est un film magique. Actuellement, j'ai deux films en préparation. Et les deux, je les ferai. Je ne sais pas encore par lesquels commencer. Mais je vais commencer le mois de mars. Je retourne au cinéma. Pourquoi je retourne au cinéma? Parce que j'ai eu des cadeaux du ciel. Généralement, mes vieux films, on a été réédités après 30 années qu'on ne les rééditait pas. Je les remasterisais. Des chanteurs de rock, toujours me choisissent à moi. C'est John Lennon qui a donné l'argent pour La Montagne Sacrée, parce qu'il aimait le topo. Et ici, Marilyn Manson, à l'époque de sa gloire, a commencé à parler de La Montagne Sacrée, à faire des hommages. Donc j'ai un énorme public jeune. À tel point qu'il y a trois semaines, j'étais au musée d'art moderne de New York, où on passait La Montagne Sacrée comme œuvre d'art. Et à partir de 8h du matin, il avait la queue pour la voir, des jeunes.
Donc, oui, ici aussi, on peut la voir, La Montagne Sacrée.
On a vu, alors on m'a redécouvert. Alors les possibilités de faire un film sont revenues. Alors Dracula est sorti de son cercueil, encore vivant, et va faire des films.
Donc cette passion quand même pour le cinéma, elle a été assouvie à un moment donné, heureusement, ce n'est pas resté uniquement quelque chose comme ça qui n'a pas abouti.
Non,
il n'y a plus vraiment un vrai travail de cinéaste.
J'ai fait tout. Dis-moi, Four.
On peut avoir un micro peut-être pour les questions dans la salle, je ne sais pas. Si, voilà, ça arrive, ça arrive.
Non, parce que no te oyen atrás.
Bueno, no hablo francés, así que por ahí puedes traducir mi pregunta.
Sí, ya traducí.
Ah, cool, perfecto. Entonces, ¿por qué dejaste de hacer cine durante tanto tiempo?
Alors, on lui demande pourquoi Monsieur Jodorowsky a laissé de côté le cinéma pendant si longtemps.
Parce que je n'avais pas envie de le faire. J'étais fatigué des acteurs, fatigué de tous les problèmes économiques qu'il y a là. La bande dessinée, c'est un paradis. Tu travailles avec un dessinateur, tu es ami de l'éditeur, et c'est formidable. Jamais je me suis bagarré avec un dessinateur ou un éditeur. C'est un paradis. On travaille comme ça, comme des frères.
Mais le cinéma... Entendez ? Quieres que te traduzca, non ? Ouais.
Mais le cinéma, c'est une affaire de voleur. Tout le monde vole, tout le monde a merde, tout le monde a un ego. Les producteurs, c'est quoi les rois du monde, ceux qui mettent de l'argent. Après les stars, c'est quoi les rois du monde. Après les techniciens font des grèves. C'est terrible. Alors je dis, j'en ai marre. En plus, j'ai tout dit ce que je voulais dire. Et j'ai trouvé la bande dessinée, que je trouve que c'est un art formidable, aussi respectable que le cinéma et que la littérature, roman graphique. Et j'ai passé des années à faire la bande dessinée avec un immense plaisir. Mais maintenant, j'ai quelque chose à dire. Alors, je vais faire du cinéma. Ya, tu crees que...
Que decís?
Je crees que están escuchando, parece...
Mais oui, tout le monde écoute. Ils se demandent si vous êtes en train d'écouter. Moi, je pense qu'ils sont tout oui. Ils sont très respectueux. Ils sont très heureux d'être là et ils écoutent. Ils écoutent passionnément tout ce que tu dis.
Vous n'êtes pas des zombies?
Non, non, non. Je suis sûre qu'après, il y aura plein de
vous
questions.
Vous n'allez pas me manger après?
Non, non, non. Il faudra passer sur mon corps.
C'est bien que vous faites des questions.
Tout de suite, là, les questions, tu préfères?
Si, si.
Bon, alors?
Si tu veux, non, ça te va?
Si, ça me va très bien, moi. Alors.
Bonjour. Par rapport au cinéma, vous avez dit que vous étiez fâché avec l'industrie du cinéma parce qu'il fallait toujours tout justifier. Et vous, il n'y avait plus l'impulsion artistique. Et vous aviez, j'ai entendu dire que vous alliez faire un film cadeau qui perd de l'argent.
Oui, oui. J'ai économisé pendant 30 années pour le faire. J'ai dans la banque cet argent. Je vais le signer. Précisément, je vais filmer. Mon livre que tu peux le lire en français s'appelle La danse de la réalité, que c'est précisément les histoires quand j'étais enfant dans ce petit village chilien. C'était assez magique. Et je vais filmer ça, oui, oui, et je vais faire un film pour perdre de l'argent. Et tout le monde fait des films pour gagner de l'argent. Mais moi, j'ai une vengeance, tu vois. J'ai fait La montagne sacrée il y a 35 années, et il y a de qui. Tandis que Avatar, dans 6 mois, personne ne va se rappeler, ça coûtait 600 millions. Pourquoi? Parce que c'est un cinéma industriel fait pour gagner de l'argent. Et l'art, nous, si tu gagnes de l'argent, tant mieux. J'aime beaucoup gagner de l'argent. Mais sans faire d'effort, il doit venir. Mais tout l'effort doit être à faire l'œuvre et pas en pensant aux fruits de l'œuvre. Alors je vais faire ce film pour perdre de l'argent.
Et si tu en gagnes de l'argent avec ce film, qu'est-ce qui se passe?
Merci. Si je gagne de l'argent, je ferai un autre film pour perdre de l'argent. Je vous raconte une histoire parce qu'on est là. Les Russes, parce que les Russes sont très riches, ont venu que je fasse les fils, les enfants del topo. Alors ils m'ont offert 40 millions de dollars pour faire les enfants del topo. Et je les ai dit, je ne peux pas faire ça. C'est un film industriel parce qu'ils voulaient Johnny Depp. Et comme Johnny Depp avait dit qu'il m'aime comme directeur, c'était sûr qu'il allait avoir Johnny Depp. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait avec Johnny Depp? Johnny Depp. Alors, toujours Johnny Depp, je pense à une abeille. Depp. Alors, il dit non, donnez-moi 5 millions et j'ai fait le film. Alors, j'ai refusé 35 millions de dollars pour faire un film bon marché. 5 millions dans le cinéma. Dans un grand aventure, c'est presque rien. Donc là, si je fais mon film, je ferai Les enfants del topo en réduisant mes moyens. Vous voyez, je suis fou, n'est-ce pas? Pas tellement. Pas tellement. Je veux dire,
si il y a des questions?
Je vais finir cette idée. C'est important. Moi, je dis que je vais semer conscience n'importe où. Moi, je pense que la planète et l'humanité est en danger. Je pense qu'elle est en danger. À cause du système économique, religieux et politique. Je pense que les politiciens sont choisis par les médiocres, qui ont le cerveau fermé. Et quand tu as le cerveau fermé, tu consommes ce qui ne doit pas, et tu choisis des politiciens que tu ne dois pas. Et tout ça contribue à l'extinction de, de l'humanité et de la planète. Alors, la réévolution poétique, ça signifie faire de telle façon que tous les êtres humains puissent ouvrir sa mentalité pour comprendre des choses. Donc, le cinéma est en train, avec son amusement, ce gel, chaque héros a un pistolet, tout ça, toutes sortes de choses. Même le cinéma oriental, que la grande intelligence s'est donné un coup de pied dans la tête de l'ennemi, n'est-ce pas? La patte dans la tête. Non. Donc, tout ça est en train de nous conduire à la destruction de la planète. Alors, les artistes maintenant doivent faire un art qui ouvre la conscience, qui apporte quelque chose de positif et quelque chose d'optimiste, et qui a une beauté sublime. Il y a un émar des héros minables, les anti-héros. Moi, je veux des héros vrais. Et je ferai des héros qui sont véritables. Je vais présenter des êtres qui ont une valeur humaine et qui ne vont pas montrer sa déchéance. Et c'est pour ça que je ferai des cinémas gratis. Et c'est pour ça que j'aime cette manifestation, parce que la science-fiction fait ça. Sous prétexte que c'est un jeu, elle présente des mondes parallèles et des possibilités. Un problème n'a pas une seule solution. Un problème a infinies solutions. Il y a toujours une solution meilleure que la que tu as choisie. Il y a 10, 20. Alors, la solution d'un problème, c'est un épuisement de solutions. Il faut ouvrir le cerveau.
On a une question.
Bonjour. Vous disiez que vous vouliez refaire du cinéma et que vous aimez le dessin. Donc je me disais, pourquoi pas faire un dessin animé?
C'est possible, je vais proposer. Maintenant, je me suis mis à faire des dessins avec ma femme Pascal, qui est merveilleuse, couleur qu'elle met. Et vous pouvez les voir ce soir. Je me suis mis à faire des dessins pour ouvrir aussi, ouvrir les dessins. Mais si on peut faire des dessins animés, je pense que c'est un futur. Mais de nouveau, on tombe dans la même chose. Un dessin animé, c'est beaucoup d'années de travail, c'est très cher. Alors, quand les prix vont se réduire, on pourra faire du dessin animé. Est-ce que tu comprends? Quand on s'en sort de l'industrie, quand on s'en sort des producteurs, il faut s'en sortir de l'industrie. Un point, c'est tout. Excuse-moi, hein?
Pourquoi?
Qui te fait au camp de question?
Non, je trouve ça formidable. Moi, j'apprends tout. Là, c'est très, très bien. Et je suis très curieuse aussi de savoir un peu ce qui se passe autour de ce tarot. Enfin, je pense qu'il y a une immense générosité dans ta façon de faire les choses pour tout. D'ailleurs, on vient de le voir avec, en parlant du cinéma, de la bande dessinée et ce cabaret mystique aussi, comme ça, que tu offres à tout un chacun en bas de chez toi. Je trouve que là aussi, ça pourrait être un peu cette démarche quand même aussi de voir l'autre, de donner, de faire ouvrir les yeux, de réveiller les consciences, ou c'est autre chose que...
Le tarot, c'est un art, mais oui. C'est humble, parce que ça se passe entre une personne et l'autre. C'est un art, c'est un langage optique.
Oui.
C'est comme le français, comme l'allemand, on peut parler le tarot. Alors, moi, pour lire le tarot, je ne lis pas le futur. Une femme me demande souvent, est-ce que je vais rencontrer un homme? Elle dit, écoute, je ne peux pas te dire, je ne vois pas le futur, si tu vas rencontrer un homme. Mais je peux te dire pourquoi tu ne le rencontres pas.
Voilà.
Ah ben, parce que tout ce qui nous arrive, on est complice de ce qui nous arrive. Si nous n'avons pas d'enfants, on est complice. Si nous n'avons pas de travail, on est complice. Si on n'a pas un partenaire, on est complice. Je dis, je ne peux pas, je ne trouve pas un homme et je le refuse. Bon. Entonces, je ne lis pas le futur, je ne donne pas de conseils. Parce que donner des conseils à une personne, c'est prendre pouvoir. Je offre des possibilités. La personne doit choisir. Je ne dis pas que je suis la vérité. On va trouver la vérité ensemble. Bon, c'est comme ça que je lis le tarot. Et il y a 30 années, 40, que je le lis, j'ai toujours un tarot dans moi. C'est Vandés Arcan Mayer. Et maintenant, il me parle. Le tarot me parle. Si quelqu'un a une question,
je suis sûre que...
Je le répondrai tout de suite avec le tarot.
Moi, j'en vois une là qui a envie de poser une question. Mais l'autre...
Il y a une petite question par ici.
Là-bas, là-bas.
Je n'avais pas de question, mais c'est pas grave.
Tu n'as pas de question?
Une carte pour maintenant.
Une carte pour maintenant.
Tu n'as pas de question, non?
Si, une carte pour maintenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en avoir une?
Une carte pour maintenant, ça ne se fait pas comme ça dans moi. Quelle carte et quelle carte? Quand même, elle me dit quel signe de zodiac, quel signe tu es, je dis je suis zodiac. On est tous les signes. Ça, c'est, Enneagram, non, Diana Neff, on est tout. Hein? Alors,
on ne peut pas le faire pour un groupe.
Laisse-moi diriger. Si tu veux savoir, si tu veux qu'on te lise le tarot, donne-moi.
Une question?
Nathan. Ah, tu es directrice, je vais te dire tout de suite que tu es directrice. Alors, donne-moi un numéro de Anne à Vandé, inclusif. Anne Vandé. Entre Anne et Vandé, un numéro de Anne.
Un numéro 3 et 22.
Numéro 3 et Vandé. Je te dis Anne, tu me dis de. Qu'est-ce que tu es rebelle? Anne et Vandé, tu m'as dit.
Non.
Donne-moi un troisième numéro.
J'ai rien dit.
Donne un numéro entre 1 et 22.
17.
17.
Donc tu as choisi les 3, les Vendée et les 17. Donc tu as choisi l'impératrice, les maths et l'étoile. L'impératrice, c'est un personnage qui est en train de grande activité parce qu'a passé une période sans activité et tout d'un coup tout renaît et veut agir, elle ne sait pas où elle va agir. Alors, l'impératrice donne sa force au mat qui amène l'énergie vers l'étoile. Et l'étoile est assise dans la terre en train de nettoyer la terre, de donner sa vérité. Donc, un grand désir intérieur de changer de lieu. C'est ça que tu as dit. Réponse?
Merci.
Ça te va?
Oui, je vais réfléchir.
Je ne te dis pas de changer de mari parce que je ne me mêle pas de ces histoires intimes.
Alors, on a une autre question par là.
Bienvenue à Nantes.
Merci.
Et je trouve que c'est magique de vous rencontrer le 11 du 11 de 2011. Est-ce que cette date vous dit quelque chose à vous?
Bon, puisqu'on a les tarots dans les mains, c'est 20 cartes, c'est 2 fois 11. Ici, j'ai 2 fois 11. Bon, tu sais. Quand dans les années 60 et quelques, il y avait un grand astrologue ici qui s'appelle Barbeau. Il a dit, dans quelques mois, toutes les planètes vont être en ligne pour la première fois. Donc ça va être terrible, la Terre va changer d'axe, Paris sera submergée sur 6 mètres d'eau. Moi, je dis, il est sérieux. Alors je racontais à Moebius. Moebius s'est échappé de Paris à vivre à Pau, dans la montagne pendant 2 années il a vécu, en attendant le cataclysme. Le jour est arrivé et c'était le jour le plus pacifique que j'ai jamais connu. Rien n'est arrivé. Alors, tout le monde est en train de prédire des changements négatifs et positifs. Parce qu'on a envie de changer. Quelques-uns de détruire le monde, quelques autres de changer le monde. 11, 11, 11, 11, c'est un chiffre magique, il y aura un changement. Mais la façon de changer le monde, ce n'est pas un événement énorme. Pour changer le monde, il faut commencer à le changer. Et pour commencer à changer le monde, il faut commencer à se changer. Et comment on se change? En enrichissant le monde avec tes valeurs. Tu donnes ce que tu sais au monde. Et c'est comme ça que tu arrêtes de penser à 11, à la fin du monde, à quoi que ce soit. C'est ma réponse. Hein?
Encore une question.
Oui.
Bonjour. Voilà. Ce serait en fait pour savoir par rapport à la montagne sacrée, comme dans les sources d'inspiration qui ont amené ce film, en théorie, il y a le bouquin du mont analogue de René Daumal. C'était pour savoir un tout petit peu, comme le bouquin de René Daumal est inspiré des voyages de Gurdjieff, si un petit peu votre point de vue ou vos connaissances vis-à-vis du théosophisme ou de ce qui tourne autour de Gurdjieff ou des poètes du grand jeu.
Mais je connais tout ça. Je vais te parler de Gurdjieff, en recherche de dix miraculés, il m'a changé la vie, ou les mémoires de Belzébuth, ou rencontre avec des hommes remarquables, j'ai tout lu. Hein? Et je lis Daumal, que c'est un roman inconclu, qui finit, ne finit pas, c'est s'annonce une grande aventure, il n'est pas fini, c'est très beau, alors j'ai décidé de le filmer. Mais la famille n'a pas donné les droits. Alors j'ai dit, merde, et pourquoi je ne ferai pas mon Montanalo? Pourquoi je ne ferai pas moi la recherche de la montagne sacrée et de l'immortalité? Alors, j'ai créé un maître qui puisse ressembler à Gurdjieff d'une certaine façon. Non? Et j'ai fait ce film-là. Alors, c'est influencé et c'est pas influencé parce que j'ai pas suivi la doctrine, j'ai suivi ma doctrine. Mais c'est inspiré du Montanalo.
Parce que en fait, effectivement, par rapport au bouquin, le bouquin est moins développé et ça fait comme une transcription dans le film où on retrouve des aspects, mais plus avec. En gros, le film permet de mieux cerner l'idée que pouvait avoir Daumal, peut-être aussi oui. Par rapport à son bouquin.
Il y a un autre livre de Daumal qui s'appelle La Grande Veverie. C'est un bar où on boit, La Grande Veverie. Et moi, je l'ai fait dans un cimetière. Les personnages arrivent et dans la célébrité, ils restent pris. Parce qu'il ne s'agit pas d'être célèbre, il s'agit de se trouver à soi-même, de trouver son immortalité intérieure. Alors dans mon film, ils restent pris dans la Grande Veverie comme chez Daumal.
Et une chose aussi, tout à l'heure, par rapport, moi ça me faisait un petit peu tilter sur quand on parle d'ouvrir son esprit, open mind et tout ça. En fait, est-ce que ça serait pas plus intéressant au niveau des créateurs qu'ils ne donnent pas des histoires forcément toutes développées, mais plutôt transmettre des graines pour que chacun fasse son propre développement, son propre parcours, un peu comme ça, dans son rapport avec la réalité, dans son rapport avec les autres, etc.
Comment tu t'appelles?
Comment tu t'appelles?
Nicolas Serra.
Tu avais des problèmes à dire ton nom, hein? Tu as des problèmes avec ton père? Réponds-moi.
C'est juste parce que j'utilise différents hétéronymes et du coup, effectivement, mon identité civile.
As-tu des problèmes avec ton père?
Oui.
Quel problème?
C'est un policier, et donc il a souvent les problèmes qu'ont les policiers. Au niveau de l'autorité, oui. Faire des abus.
Tu vois, comment je l'ai su?
Parce que, justement, au niveau identité, je ne suis pas tout à fait en paix avec moi-même.
Je l'ai su par ta façon de parler. Ah. Et par les problèmes que tu te poses. Tu vois? Tu es en conflit avec les pères. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne veux pas qu'on te donne des histoires complètes. Tu veux qu'on t'élève, qu'on te donne des graines. Tu veux que ton père, tu aurais voulu que ton père te fasse pousser. Chose qu'il n'a pas fait. Excuse-moi, hein? Excuse-moi. Et alors, pour un côté, tu as raison, mais fais attention parce que ça, c'est ta forme de penser. Ça fait une espèce de cage. Ou tu vas refuser les histoires complètes et tu vas dire, je préfère celui qui me donne une graine. Je préfère une personne qui ne m'écrase pas. personne qui me donne une graine, pas qu'il m'écrase. J'avais pris mon papa. Voilà. Mais les dés sont bons. Les histoires complètes sont bonnes et les histoires en graines sont bonnes. Faut s'ouvrir. Faut pas se délimiter dans une seule pensée. Est-ce que tu comprends ça?
Oui, Marc. Et
pour un autre côté, les histoires complètes, personne ne les comprend. Hein? Si tu es prêt, tu les comprends. Et si tu n'es pas prêt, tu ne les comprends pas. C'est comme une graine, une histoire complète aussi. Parce qu'il faut l'interpréter et voir ce qu'elle est. Chaque personne comprend ce qu'elle peut. Tous les secrets sont ouverts. Il n'y a pas de secret caché. Sauf que ce qui est caché, c'est le regard de la personne qui va chercher le secret.
Bah, ça répond à la question, parce que c'était plus sur l'aspect du choisi et du subi. Et effectivement, par le biais de l'interprétation, une histoire complète peut être choisie dans le message qu'elle transmet.
Qu'est-ce que tu sens de parler avec un archétype paternel comme moi? On fait un dialogue, regarde. Tu ne trouves pas que c'est fantastique?
C'est très intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets, oui.
Chose que ton père n'a pas fait.
du coup, j'ai eu des pères de substitution, des gens comme Philippe Cadic, qui ont apporté des
mort.
Idées.
Je suis vivant.
Bon, si quelqu'un a le courage de poser encore d'autres questions, lancez-vous.
Si vous êtes une question, je n'ai qu'une réponse, c'est tout.
Oui, bonjour. Vous avez beaucoup travaillé sur les contes, les textes sacrés pour proposer des pistes d'élévation spirituelle. Est-ce que vous pensez que la science-fiction actuellement, et notamment celle que vous avez développée, peut servir de point de départ à une élévation spirituelle, ou est-ce qu'elle aura besoin de quelques siècles pour devenir une nouvelle forme de mythologie?
Moi, je crois. Tu sais, je me suis détaché de la science-fiction dans une époque, précisément quand j'ai commencé à faire des films, j'étais pris. Mais avant, j'étais très pris. Et il y a des choses comme Demain les chiens, des choses comme Le monde des âmes, où j'ai pu connaître Korsivski. Et j'ai étudié après Korsivski la sémantique non-aristotélicienne. Après, Les dunes de Herbert. C'est un roman qui c'est comme un mythe pour moi, aussi fort que. Aussi fort que la Divine Comédie ou que Don Quichotte. Donc ça existe. Mais après, la science-fiction moderne, je ne pourrais pas te le dire parce que je ne la connais pas. Il faudrait qu'on me dise parce que je ne la connais pas. Je me suis détaché. Mais je me suis détaché de toute la littérature. Je me suis détaché de Kafka, de Proust, de Dostoyevsky, de Márquez. Parce que ce sont tous des écrivains qui tourne autour du nombril. Tu vois, ils sont un parfum de nombril. Et ils parlent d'eux-mêmes. Et l'autre n'existe pas. Et ils font créer la chose pour être exaltés, applaudis. Mais le monde est en train de se détruire. Maintenant, je dis, je ne vais pas faire un art si ce n'est pas pour guérir. Je veux une littérature qui me donne. Une littérature qui me permet de vivre mieux, qui me change, qui ouvre mon mental. Alors, je ne sais pas s'il y a actuellement des écrivains qui s'en sortent d'eux-mêmes et qui écrivent des volumes transpersonnels. Je l'ai fait, moi, dans mes écrits. Si tu lis La Voix du Tarot, Métagénéalogie, Psychomagie, La Danse de la Réalité, j'essaie de faire un art transpersonnel où la personne, en lisant le livre, puisse faire un progrès. Quand j'ai écrit Le Cabaret Mystique, c'est un livre, je l'ai fait pour les personnes déprimées. Je me dis, je vais faire un livre de telle façon qu'une personne déprimée, si lit le livre, quand elle finit le livre, la dépression sera finie. Voilà ce que je me suis proposé. Je ne sais pas si je suis clair.
Très clair. Ah, nous avons une question par là. Je ne sais pas où est le micro. Là, ah, après ce sera à monsieur alors.
Bonjour monsieur Jodorowsky, j'avais une question à poser quant à votre film.
Attention s'il vous plaît. Pierre Jean est attendu par ses parents à l'entrée de la Cité des Congrès. Merci.
Voilà.
Oui, votre film Santa Sangre.
Attends. Cette personne qui a fait l'annonce a manqué de délicatesse. Para que le decir, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Et telle personne, mais on est en train de parler.
Hey, personne, ni niño, ni perdí, blablabla.
Ça se fait pas. Tu vois, c'est ça la vie qu'il faut comprendre, que la vie a besoin de relations délicates. Et n'est pas cassée un instant brusquement.
Oui. C'est un enfant qui attend ses parents, c'est peut-être ça aussi.
Ah, ben oui.
Voilà.
J'ai quelque chose d'important à vous dire, est-ce que je peux le faire? Bien
tout
sûr.
Fait.
Il y a un petit enfant qui a perdu ses parents. Et pourquoi il a perdu ses parents? Ce n'est pas lui qui a perdu ses parents, c'est son parent qui l'ont perdu.
Voilà.
Il aurait dû faire attention. Je t'écoute.
Allô?
Je t'écoute.
Allô?
Oui?
C'est bon.
Oui, justement, en parlant de parents, par rapport à votre film Santa Sangre, on sent, pour ma part en tout cas, que c'est un des films que je préfère de vous. C'est justement, on sent comme dans ce film une espèce de certain de deuil. Tout à l'heure, vous nous parliez de votre père, mais qu'est-ce qu'il en est de la question de la mère? Tout au long du film de Santa Sangre, on sent le fantôme de la mère qui régule son fils, qui le castre, qui le retient.
Parfois, il a des problèmes.
Quels étaient vos ressentis quand vous avez réalisé Santa Sangre? Et justement avec vos deux fils et dans je sais plus si c'était ça quand il y avait la scène du tatouage il paraît que vous le pinciez pour qu'il aille les larmes à l'œil.
Tu sais, je l'ai dit, écoute, tu as deux possibilités, une imiter pleurer, l'autre pleurer de vrai. Si tu imites pleurer, comme je vais te prendre ton visage comme ça, on va voir que c'est faux. Si tu pleures vraiment, personne jamais va oublier cette image. Mais tu choisis. Alors il me dit, j'ai choisi pleurer vrai. Je lui ai dit, mais ça va te faire du mal parce que je serai en bas de la caméra et je vais te pincer les jambes. Il me dit, pince-moi les jambes. Et je lui ai pincé les jambes, sans pitié. Et il a vraiment pleuré. Il a devenu un grand artiste parce que maintenant s'appelle Adanovsky. Et c'est une star de la musique au Mexique. Maintenant, il va venir en France. C'est un formidable artiste. Je suis d'une famille d'artistes. Et un artiste, dans certains moments, doit pouvoir se sacrifier. J'ai fait un tweet, hier, j'ai fait un tweet qui disait « Excuse-moi, mon père. » Excuse-moi, parce que je t'ai déçu. Tu voulais que je suive ta vie et j'ai décidé de suivre la mienne. Et après, j'ai dit, excuse-moi, maman. Tu voulais me tuer quand j'étais dans ton ventre, m'avorter, et j'ai lutté et je suis né. Excuse-moi pour te décevoir. Parfois, il y a des problèmes. Tous les parents ne sont pas parfaits. Moi, si je voulais arranger l'éducation, n'est-ce pas? Je changerais les écoles, je changerais les maternités, et je ferais des écoles pour les parents. Parce qu'il faut apprendre à être parent. Le père absent est partout. Et quand il y a un père absent, les femmes vont chercher des hommes qui vivent loin et qui sont absents parce qu'on reproduit le niveau émotionnel de l'enfance. Après, on les reproduit toute la vie. Ma mère ne m'a pas aimé pendant des années. Je me suis mis avec des femmes qui étaient incapables d'aimer. Pourquoi? J'ai cherché la même douleur que mon enfance. La montagne de Santa Sangre parle des problèmes de la famille. Comment des parents fous, des parents inconscients, donnent la folie à ses enfants et leur changent la vie. Ça, c'est mon livre Métagénéalogie qu'Alban Michel vient de publier. Faut le lire. Ça va?
Voilà, monsieur qui voulait poser une question.
s'il te plaît. J'ai retenu la leçon. Alejandro, je vais poser une question dangereuse, redoutable, au moins pour moi. Qu'est-ce que je suis devenu depuis si longtemps? Qu'est-ce que je suis devenu depuis si longtemps, beaucoup trop longtemps que nous sommes vus? Qu'est-ce que je suis devenu?
Où est-ce qu'on s'est vu la dernière fois?
Oh, je crois que c'était chez toi. Oui. C'était encore du côté de Vincennes.
Ah, enfin, oui.
Hein, et ça doit bien faire 15 ans. Et très souvent, j'ailleurs plusieurs fois par l'intermédiaire de notre ami, ton maître d'armes, là, j'ai voulu reprendre contact avec toi, puis le temps passe, il y a des choses beaucoup moins importantes à faire. Et j'ai toujours eu l'intention de reprendre contact avec toi.
Je vais te dire une chose, parce que la question est difficile. Qu'est-ce que je suis devenu? Une fois, j'ai traité avec une nonne, parce que mon fils, que je l'ai fait avec une française, sa tante est une nonne, grande quasi, énorme. Et moi, je lui ai dit, à Vierge, je lui ai dit, où est-ce qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il est Dieu? Et elle m'a répondu, si Dieu n'est pas là, il est nulle part. Ah, c'est une question formidable. Alors, qu'est-ce que tu es devenu? Si tu n'es pas assis là, tu es nulle part. Et si tu as bien vécu ta vie, tu es là, assis, là, complet. Comme moi, je suis complet là. Si je ne suis pas complet là, je suis nulle part. Pourquoi j'ai vécu? Alors, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es assis ou tu es assis?
Je n'en suis pas complètement sûr.
Bon.
Cela étant, et ça t'amusera probablement, certains, évidemment, par dérision, sur Internet, m'appellent Dieu.
Il s'appelle Dieu?
Si, nous sommes voilà.
Dieu, il y a les anges. Alors, fais-toi faire un massage pour trois anges nus et tu vas te retrouver dans ton corps.
Bon, c'est un bon conseil, hein, pour une fois. C'est vrai.
Bonsoir, monsieur Jodorowsky.
Bonsoir, monsieur.
Vous avez parlé de livres comme, en quelque sorte, comme des médicaments. Vous disiez que vous aviez écrit un livre pour lutter contre la dépression pour le lecteur.
Si, si.
Et avez-vous guéri d'autres maladies? Et quel livre pouvez-vous me recommander pour guérir des maladies intéressantes, la dépression ou autre, je ne sais pas.
Moi, j'ai des livres qui parlent. La danse de la cabaret mystique, c'est pour la dépression. Mais pour différentes autres maladies, mais pas maladies corporelles principalement, sino maladies spirituelles. C'est Manuel de Psychomagie. Psychomagie, premier volume, Manuel de Psychomagie, comment tu le pratiques. Et c'est bien utile. Je te le recommande. Psychomagie avant, et après Manuel de Psychomagie. Alvin Michel, édition Spiritualité Vivante de Poche.
Est-ce en toute conscience que vous le faites ou vous le faites d'une façon spontanée? Ça vous vient comme ça?
Quoi?
Il n'y a pas un but, vous n'avez pas un but avant, le but se trouve après coup.
Par rapport au cabaret.
Después d'escribir. Puede dar cuenta que es después de escribir que hay una solución para un problema psíquico.
Quand il écrit, vous voulez dire, c'est ça, c'est après, s'il doit se rendre compte
après coup,
de ce qu'il a...
Après coup ou avant coup.
Si ce qu'il écrit rapporte ça.
Je suis descendu dans la rue, je me suis mis dans un café, une fois par semaine, à lire à toute personne, après j'ai donné des conseils de psychomagie, je me suis mis avec les gens, je ne suis pas resté enfermé dans ma... Donc je connais des milliers et des milliers de cas. Donc j'ai commencé à chercher... Comment guérir? Parce que la psychanalyse ne guérit pas. Il te maintient vivant pendant des années. Mais il ne te guérit pas. Je dis, comment guérir? Alors, quel est le problème de la psychanalyse? Que c'est une science avec les mots. On veut guérir avec la parole. Tu t'assois, tu parles. Et tu parles. Et tu parles jusqu'à ce que tu trouves. Mais la parole, ce n'est pas la chose. Tu dis, par exemple, oui, quand j'étais enfant, j'étais excité avec ma maman. Parce que je l'avais nue. Et pendant des années, j'ai désiré coucher avec ma maman. Voilà mon problème. J'ai découvert. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le psychanalyste ouvre les yeux et va te dire, va peindre un tableau sublime, il n'y a pas de solution. Alors, quoi faire? Freud prend les rêves et les conduit au rationnel, il les explique. J'ai dit, je vais faire le contraire. Je vais prendre le rationnel et l'apprendre à parler le langage des rêves. Alors, j'ai créé des actes magiques, surréaliste, chamanique, qui te donne une solution. Et avec un acte, tu peux économiser 2 ou 3 années de psychanalyse. Gratis, hein? Tu lis les livres, c'est tout. Tu n'as pas payé.
En tout cas, pour ce qui est du cabaret mystique, je voulais quand même vous rappeler que ça se passe demain soir et que là, on va pouvoir...
Je vais dire ce que je vais faire demain, ce sera ici.
Ce sera ici, mais je pense que ce sera dans la grande salle. Je pense que ce sera dans la... Ah, c'est ici, me dit Marie.
Je te dis
donc ce sera ici au même endroit, demain soir.
Je vais te dire exactement ce que je ferai demain soir. Parce que c'est, le cabaret mystique, ce n'est pas une pièce de théâtre que je répète. Chaque fois, je change comme aujourd'hui, c'est improvisé. Comme ici, il s'agit de les utopias, c'est des histoires. Le thème, c'est les histoires. Demain, je vais raconter une grande quantité d'histoires qui m'ont changé la vie. De toutes les traditions. Il y a des histoires qui m'ont changé la vie. Voilà. Alors, c'est ça que je ferai. Une derrière l'autre, je vais dire les histoires. Et blagues qui m'ont changé la vie. Parce que les blagues sont très, très profondes parfois. Et c'est ça que je ferai. Ça sera une soirée d'histoire.
Et là, malheureusement, on doit clore. tranquilo. On va faire, voilà. Je vous annonce quand même, donc, à part le cabaret mystique demain, que Alejandro va dédicacer une petite demi-heure maintenant, juste là. Donc, pour ceux qui... Dépêchez-vous. Et puis on te remercie du fond du cœur. On attend demain soir avec impatience et on espère que vous serez tous là à nouveau. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci à toi, Alejandro.